Chers auditeurs et auditrices, nous continuons une nouvelle série, mais toujours dans la pensée de l'importance que nous devons donner à la rédemption. Et nous commençons donc par l'étude numéro 1, mais il va y avoir un petit changement, je vais vous expliquer. En étudiant attentivement le ministère de Christ durant les 3 ans de sa vie au milieu des hommes, pouvons-nous vraiment affirmer avec certitude que son rôle principal était de nous affranchir de l'oppresseur afin d'apporter le salut pour l'homme tout entier, c'est-à-dire pour le corps, l'âme et l'esprit? C'est ce que nous allons découvrir tout au long de cette série que nous allons prendre uniquement, comme toujours, dans les Saintes Écritures. Or, la série d'études que nous allons entreprendre maintenant, cette série peut être une aide à des pasteurs qui sont débordés de travail. Je connais certains serviteurs du Seigneur en Allemagne, puisque je suis de langue allemande, qui pour survivre, ou si vous voulez, pour vivre correctement et pouvoir faire nourrir leur famille, subvenir à leur famille, doivent aujourd'hui desservir parfois 2 ou 3 paroisses, parce que nous ne vivons pas la même époque qu'autrefois, où les gens donnaient la dîme, parfois même encore des offrandes en plus, et beaucoup de choses dans cet esprit-là a totalement changé. Donc, ils sont obligés de se dépasser, donner toute leur énergie, leur temps pour le Seigneur, sans toujours avoir le temps de pouvoir étudier et préparer les cultes, les enterrements et les différentes choses qu'ils sont dans leur devoir d'accomplir. C'est pour cela que les thèmes que je vais donner dans cette série, certains seront plutôt courts, ce qui permettra à ces pasteurs d'en profiter pour pouvoir les aider dans leur préparation des études, des messages qu'ils doivent donner. Et comme un CD contient un peu plus de 75 minutes de possibilités, et que ces messages seront nettement plus courts, alors je vais peut-être parfois en mettre 2 ou 3, peut-être même 4, suivant la longueur des études. Chers amis, aujourd'hui, nous prendrons dans les Saintes Écritures le verset suivant, dans la première épître de Johannes, de Saint Jean, chapitre 2, verset 15, et là il est dit « Quiconque n'aime pas son frère est un meurtrier ». Et toujours dans la même épître de 1 Jean, chapitre 3, verset 14, il est dit « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie puisque nous aimons nos frères. Chers auditeurs et auditrices, je me suis longtemps battu avec moi-même depuis le jour de mon baptême pour ne pas juger même avant de me rendre compte à quel point notre jugement peut parfois, il est vrai, être meurtrier. Un jour, il n'y a pas bien longtemps, je suis arrivé à mon temps d'oraison avec, une fois de plus, un problème de jugement sur le cœur. C'est ce jour-là que Jésus a choisi pour me montrer que j'abordais le problème du mauvais côté. Il ne me demandait pas d'être aveugle totalement ou presque stupide, mais surtout, avant toute chose, d'aimer. Ce qui transformait mon regard en jugement, c'était le manque d'amour. Il y avait la poutre dans mon œil quand je voyais la paille dans l'œil de mon voisin. Ça, c'était mon manque d'amour. Ce qui importait, c'était que mon regard sur la personne en face de moi fut si plein d'amour qu'il n'y avait plus de jugement, mais un regard clair et le discernement. La différence entre le discernement et le jugement, c'était la présence ou le manque d'amour. S'il me manque l'amour, je ne suis rien, nous dit saint Paul dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 2. Saint Jean va plus loin encore. Il nous dit que si nous n'aimons pas, nous demeurons dans la mort. 1er épître de saint Jean chapitre 13 verset 14. Et Jésus-Christ nous dit que c'est à l'amour que on le reconnaîtra, lui, notre Seigneur. Saint Jean, chapitre 17, verset 23. Il nous dit aussi qu'il nous demande d'aimer non seulement nos frères, non seulement les personnes qui nous sont sympathiques, agréables, et qui nous aiment, qui nous attirent, mais que nous devons aimer tout un chacun, même ceux qui ne nous aiment pas trop ou qui se comportent avec nous en ennemis. Et de les aimer comme Jésus aime, c'est de la plus haute importance. Saint Jean, chapitre 15, verset 12. Jésus dit, « Tu aimeras comme Dieu aime. » Oui. « Vous donc, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, » nous dit-il dans saint Matthieu, chapitre 5, verset 48. Voyez-vous, il me dit, « Attention, ce miroir à travers lequel tu me vois, comme d'une manière confuse, 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 12. Or, chaque personne que tu acceptes de ne pas aimer va ternir, l'épaissir. Chaque fois que tu acceptes de ne pas aimer quelqu'un, eh bien, tu te sépares de moi. Et pas seulement de moi, mais également de mon amour. Quand je veux dire à Jésus, tu sais que je t'aime, il me dit, n'oublie pas que la mesure de ton amour pour la personne que tu aimes le moins, ça c'est le coefficient de ton amour pour moi. Oh là là, j'ai pris une bonne gifle. Alors, comment faire pour aimer? Vraiment aimer, pas simplement de cet amour chrétien dont quelqu'un a dit qu'il était la manière chrétienne de ne pas aimer ceux que nous n'aimons pas. La première chose que Jésus m'a fait découvrir de l'amour du prochain, ce fut le rôle de la volonté, de mon vouloir aimer dans l'amour, et comment cette volonté d'aimer pouvait changer mon regard sur la personne qui est en face de moi. Je découvris donc par la même occasion avec combien peu d'amour je la regardais normalement. Je peux donc, d'abord et avant tout, décider d'aimer. Et maintenant, je sais que Jésus-Christ est là. Je tiens fermement sa main. Je le mets entier entre moi et cette personne pour laquelle je n'ai aucune inclination naturelle. Et sa présence change bien des choses en moi et en l'autre, aussi étrange que cela puisse paraître. Oui, il agit aussi en elle, et cela à son insu. Dès que, face à quelqu'un, je me dis « Jésus l'aime », il l'aime autant qu'il m'aime. Il l'aime comme il est maintenant, dès maintenant. Il attend, car il est mort pour lui sur la croix. Il est donc son temple. Il veut habiter en lui. Il m'offre de l'aimer à travers moi. Toute ma relation à ce quelqu'un change maintenant totalement. Jésus-Christ veut que j'aie pour chaque personne que je rencontre son regard et son amour. Il m'offre de me donner, si je l'accepte, son amour pour l'aimer. Il me dit même que je peux le contempler, lui, le Seigneur, le découvrir, l'entendre dans cette personne peu attirante, voire même parfois hostile. Mais il y a évidemment des cas difficiles, nous sommes d'accord. Ceux où nous pouvons découvrir que profondément, nous ne voulons pas vraiment aimer. Nous ne voulons pas aimer ce prochain-là. Alors il me faut revenir à la prière pour vouloir et encore vouloir. Et je demande à Dieu de vraiment vouloir aimer cette personne et je commence à prier pour elle. Dans la prière, je le sais déjà. Mon regard sur elle et mon sentiment pour elle vont maintenant changer. Et quand nous demandons à Dieu, sans nous décourager, de réaliser en nous sa volonté et son amour, il finit par le faire, et cela quel que soit le temps nécessaire. Chers amis, nous avons là, dans notre prochaine petite étude, nous avons là l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui se trouve un jour devant Agrippa. Agrippa et Bérénice sont venus en grande pompe et sont entrés dans le lieu de l'audience avec les tribuns et les principaux de la ville. Sur l'ordre de Festus, l'apôtre Paul fut donc amené. Alors Festus dit, « Roi Agrippa, et vous tous qui est à présent avec nous. Vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai donc résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte. Et c'est pourquoi je l'ai fait paraître devant toi, roi Agrippa, afin de savoir qu'écrire, qu'est-ce que je dois écrire après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Actes des apôtres, chapitre 25, versets 23 et 27. Au moment où se produit cette scène, l'apôtre Paul est depuis 2 années dans une prison. Il est sous la juridiction de Festus, qui voudrait bien comprendre pourquoi les Juifs réclament sa mort. Il sait que le roi Agrippa connaît les lois d'Israël et il l'invite avec la reine Bérénice et les magistrats de la ville, à venir pour entendre l'accusé. Voyez-vous, il y a dans cette scène 4 personnages. Nous avons Agrippa, Bérénice, Festus et l'apôtre Paul. Il y a aussi les magistrats de la ville et le tribun. C'est devant ces personnes-là que Paul va donner son témoignage. Il raconte comment il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas. Il parle de la mission qu'il a reçue, Jésus-Christ, qu'il persécutait autrefois, lui a dit « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple, du milieu des païens vers qui je t'envoie, et cela afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Actes des apôtres, chapitre 26, versets 17 et 18. Il trace donc à grands traits sa rencontre avec Jésus. Une lumière éclatante l'a aveuglé et une voix venant du ciel s'est fait entendre. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus que tu persécutes. Le Seigneur avait confié à Paul une mission et nous allons considérer les différents points. Je t'ai choisi, dit le Seigneur, afin que tu leur ouvres les yeux. C'était donc un devoir d'ouvrir les yeux des païens pour qu'ils comprennent qu'ils vivaient dans les ténèbres. Ils avaient donc besoin de la lumière. Quelqu'un dont les yeux sont fermés ne sait pas s'il fait jour ou s'il fait nuit. Il ne sait pas où il est. Mais une fois les yeux ouverts, il s'en rend compte. Pourquoi leur ouvrir les yeux? Pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, c'est-à-dire de la puissance de Satan à Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Si quelqu'un n'a pas accepté Christ comme sauveur, il est sous la puissance du diable. Jésus disait aux Juifs, « Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père ?» Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Saint Jean, chapitre 8, verset 44. Et là, Saint Jean nous dit, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. C'est ce que nous dit Jean, chapitre 8, verset 44. Pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la sainte parole de Dieu. La foi, c'est croire Dieu, c'est prendre Dieu au mot et mettre la main sur toutes ses promesses. Et le pardon nous est acquis uniquement par la foi en Jésus-Christ. Quand Jésus parla au paralytique, il lui dit tout d'abord, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, on entendit des murmures. Mais Jésus affirma son pouvoir. Il le dit dans Saint Matthieu, chapitre 9, verset 6, « Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, « Lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Instantanément, le paralytique fut guéri. Chers amis, pour recevoir l'héritage avec les sanctifiés, quelle est la manière normale de recevoir un héritage sinon par un testament ? Dans le Nouveau Testament, Jésus nous a promis un héritage. Il nous réserve une maison là-haut et il est allé pour nous la préparer. Saint Jean l'a décrite dans Révélation, donc dit Offenbarung, chapitre 21, verset 2. Dans Apocalypse, chapitre 21, verset 2. Là, il est dit, « Et j'ai vu, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Il n'y aura plus de souffrance, mais un éternel bonheur. » Saint Paul a continué à donner son témoignage tout simplement. « J'ai prêché, dit-il, la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. » Il déclare ensuite ce que les prophètes et Moïse ont annoncé, savoir que Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Pendant que saint Paul parlait, il y avait devant lui Festus, le gouverneur. Les flèches de la conviction avaient, croyez-moi, pénétré son cœur. Il comprenait que sa vie n'était pas en règle avec Dieu. Voulant arrêter Paul, car il était profondément troublé, il s'écria, « Tu es fou, Paul !» Ton grand savoir te fait déraisonner. » Et puis l'apôtre se tourne vers le roi Agrippa. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Lorsque Jésus est mort sur la croix, lorsque il est sorti du tombeau, ressuscité d'entre les morts, ce n'était pas en cachette. Puis saint Paul attaque directement Agrippa. « Crois-tu au prophète, roi Agrippa ? je sais que tu y crois. Alors écoutez maintenant ce que Agrippa dit à Paul. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. S'il avait dit « tu vas me persuader de devenir chrétien », cela aurait été beaucoup mieux. Mais il introduisit dans sa phrase ce petit mot « bientôt », c'est-à-dire « tu es en train de m'amener à la foi chrétienne pour un avenir plus ou moins éloigné ». Or c'est là qu'il s'est trompé, car dans la parole de Dieu pour le salut, il n'y a pas de bientôt, il n'y a pas de demain. C'est aujourd'hui le jour du salut et de la rédemption. Je répète, c'est aujourd'hui le jour du salut et de la rédemption. Personne ne peut me dire « demain soir, je me déciderai ». Car d'ici 24 heures, bien des choses peuvent arriver. Le moment présent est à nous. Mais demain, ne l'est, croyez-moi, ne l'est pas du tout. Il ne faut pas dire « bientôt, tu vas me persuader ». Mais maintenant, tu me persuades, car il est écrit dans Hébreux chapitre 3, verset 15, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Après avoir entendu l'apôtre Paul, Agrippa était presque devenu chrétien, mais il ne l'a jamais été, car ce bientôt, l'a perdu. Il nous reste à voir un troisième personnage, c'est Bérénice. Il semble qu'elle n'ait pas compris grand-chose. L'évangile ne l'a pas du tout touchée. Elle devait sans doute s'occuper de sa beauté. Elle avait revêtu ses plus beaux atouts. Elle regardait tous les autres et elle n'avait pas une minute pour s'occuper de l'apôtre Paul. Elle ne porta pas la moindre attention sur le message de la repentance. Chers amis, le dernier personnage de cette scène, c'est le plus grand. C'est l'apôtre Paul. Certes, il est couvert de chaînes, mais il fait plutôt figure d'un juge que d'un accusé. L'Évangile a transformé sa vie et il ne craint pas la mort. Il sait que le royaume de Dieu lui est ouvert. Chers auditeurs et chères auditrices, à qui ressemblez-vous? À Festus, l'incrédule? À Agrippa, l'homme religieux? À Bérénice, la mondaine, ou à saint Paul, le serviteur de Dieu? Je vous demande de simplement y réfléchir. Je vous le dis avec amour, parce que vous ne m'êtes pas indifférent, vous pouvez me croire. Maintenant, dans Actes, chapitre 4, versets 1 et 22, nous avons là l'apôtre Pierre et Jean devant le Sanhédrin. Je voudrais vous parler de ce que Pierre a dit pour expliquer un miracle devant le Sanhédrin. Pierre et Jean avaient guéri un boiteux de naissance qui mendiait à la porte du temple qu'on appelait la Belle. Cet homme était âgé de 40 ans. Les gens religieux, mécontents, le firent jeter en prison pour la nuit. Le lendemain, les deux disciples comparurent devant le Sanhédrin qui leur posa cette question. Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Ils reconnaissaient qu'un tel miracle ne pouvait se faire que par un pouvoir surnaturel, mais ils voulaient en connaître l'origine. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, dit à ces gens, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. » C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé parmi vous. Oui, chers amis, dans le nom de Jésus, il y a un pouvoir de salut et même de guérison. Il y a eu un incident qui est arrivé au cours d'une mission au Canada. Un soir, pendant la réunion, sont arrivés 4 ou 5 jeunes gens avec des mauvaises intentions. Ils venaient pour faire un peu de trouble, mais un peu plus. Et voici le témoignage du pasteur de cette église. Laissons-le parler 1 ou 2 minutes. Pendant le culte, ils n'ont pas bougé. Mais quand j'ai terminé, ils se sont avancés et ça a été une avalanche de questions. Ils m'ont dit, « Monsieur, pourquoi ne parlez-vous pas de quelqu'un d'autre? Vous ne parlez que de Jésus. » J'ai dit, « Écoutez, chers amis, j'ai l'habitude de parler des personnes et des choses que je connais. » Ils me dirent encore, « Pourquoi ne parlez-vous pas de Sainte Anne de Beauvais ?» Ils m'expliquèrent que chaque année, on organisait de grands pèlerinages qui rassemblaient des foules énormes. Voyez-vous, moi je préfère parler de Jésus. Je voudrais vous dire ce que le nom du Seigneur Jésus nous donne. Avant de monter au ciel, le Seigneur a donné des instructions. Nous lisons dans Saint Matthieu, chapitre 28, versets 19 et 20. Là, il est dit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Dans Saint Marc, chapitre 16, versets 15 et 18, il est écrit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Dans Saint Luc, chapitre 24, verset 47, il affirme que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Les disciples devaient donc prêcher la repentance et le pardon des péchés au nom de Jésus. Maintenant, je vais vous poser une question. Y a-t-il une différence entre le remords, la pénitence et la repentance? Oui, vous êtes d'accord, il y a une différence. Savez-vous que Judas éprouva du remords quand il a eu livré Jésus pour 30 pièces d'argent? Il a compris qu'il avait commis un crime quand il a pris les 30 pièces d'argent. Et il les a jetés, comme vous le savez, dans le temple. Ensuite, il est allé se pendre. On peut avoir du remords sans passer par la repentance. Il y a aussi une différence entre la pénitence et la repentance. La pénitence est un effort dans le but d'expier ses péchés. Après une bonne confession, on fait quelques actes de contrition et quelques pénitences, n'est-il pas vrai ? Et presque toujours, les pénitences sont des prières. Je ne sais pas pourquoi on donne des prières comme pénitence. On devrait les considérer comme un bienfait, non ? Or, on les impose comme une punition. La repentance, c'est tout autre chose. C'est un don de Dieu. On ne peut pas se repentir à volonté. Pour qu'il y ait repentance, il faut une action du Saint-Esprit. Grâce à l'Esprit Saint, qui travaille le cœur et qui provoque une tristesse selon Dieu, on éprouve le désir de quitter le péché. Dans le mot grec traduit par « repentance », il y a la pensée d'un changement de cœur et de vie. On peut faire chaque semaine des pénitences et ne pas avoir la vie éternelle. Mais une véritable repentance nous amène au pardon, à la nouvelle naissance et à la vie éternelle. Est-ce que les apôtres ont prêché cela ? Je vais vous montrer comment l'apôtre Pierre a prêché la repentance et quel en a été le résultat. Le jour de la Pentecôte, il y eut une grande effusion du Saint-Esprit. Pierre se leva et prêcha un sermon merveilleux. Il a dit tout ce qu'il fallait pour amener les Juifs à la repentance. Tout d'abord, il les accusa formellement d'avoir fait mourir le prince de la vie. Et cela était vrai. Ensuite, il leur prouva que Jésus-Christ était ressuscité. Le résultat fut émouvant. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 37, que, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres : Hommes, frères, que ferons-nous ? Ces gens avaient compris combien grand était leur crime. Il leur répondit : Repentez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour ces Juifs, le baptême était la preuve certaine de leur repentance. Ils avaient crié contre Jésus en disant « Crucifie, crucifie !» Et ils avaient poussé Pilate à condamner le Sauveur. Et maintenant, l'apôtre Pierre leur demandait d'être baptisés dans le nom de Jésus, ce nom qu'ils avaient blasphémé. Si vous vous êtes repentis, il faut descendre dans les eaux du baptême. Vous me demanderez peut-être pourquoi le résultat de la prédication fut si merveilleux. Car en effet, 3000 hommes se firent baptiser. Souvenez-vous que Jésus, mourant sur la croix, a fait monter vers Dieu cette courte prière, mais très efficace. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Quand l'apôtre Pierre prêcha l'évangile, 3000 hommes se repentirent en réponse à la prière. Je voudrais aussi vous dire que la nouvelle naissance qui fait de nous un enfant de Dieu est aussi donnée au nom de Jésus. Lorsque on prêche la parole de Dieu, il faut que cette parole pénètre les cœurs. Or, je lis ceci dans Johannes, dans Saint Jean chapitre 1, versets 11 et 13, au sujet de la parole, c'est-à-dire de Jésus. Il est dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas, et ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son saint nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si vous ne croyez pas au nom de Jésus-Christ et à tout ce qu'il nous apporte, il est impossible de devenir enfant de Dieu. C'est ce nom qui nous confère l'adoption. Par ce nom, nous sommes nés de Dieu. Avant toute chose, il faut nous appuyer sur ce nom merveilleux. Je voudrais maintenant vous faire arriver à une autre parole que l'apôtre Pierre a dite pour expliquer le miracle produit en faveur de l'homme boiteux qui mendiait à la porte du temple. Ça se trouve dans Actes, chapitre 3. Il affirma d'abord que c'était par le nom de Jésus que cet homme était en bonne santé, rappelez-vous. Et il ajouta, « La pierre rejetée par vous qui bâtissez est devenue la principale de l'angle. » Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 11. En lisant les évangiles, vous pourrez voir comment les sacrificateurs et les prêtres ont examiné Jésus pendant 3 ans et demi. Ils ont essayé de lui trouver une petite place dans leur religion. Ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le mettre dans les fondations. Ils avaient Moïse et la loi. Quand Jésus est venu, ils ont dit, « Nous avons Moïse et les prophètes. Toi, d'où viens-tu ? D'où vient-il celui-là ? » Ils ont rejeté Jésus car il n'y avait pas de place pour lui. Et c'est pourquoi Dieu les a rejetés. Il a commencé à bâtir un nouvel édifice. C'est son Église. Jésus-Christ en est la pierre angulaire. Il est le chef et le consommateur de la foi. Nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Le seul nom qui sauve et qui apporte la paix et le salut, c'est le nom de Jésus. Pierre savait bien ce qu'il disait. Si nous mettons la croix où Dieu le veut, toutes choses sont possibles, repentance, guérison et la vie éternelle. Je voudrais vous dire une autre pensée qui se trouve dans 1 Jean, premier épître de Saint Jean, chapitre 5, verset 13. C'est l'apôtre Jean qui parle. « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils unique de Dieu. » L'apôtre Jean a écrit son épître pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. C'est une certitude qui remplira votre cœur. Chers amis, nous allons terminer cette première série par l'impotent du temple. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait à la porte du temple appelé la belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose, une petite pièce de monnaie. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais que ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit se lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Actes chapitre 3, versets 2 et 8. Voilà un glorieux miracle accompli par le nom de Jésus. Pierre, dans son discours, l'explique à la foule. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Pendant son court séjour sur la terre, Jésus aurait pu guérir cet homme, mais il savait à l'avance les circonstances qui amèneraient Pierre devant lui et les conséquences qui en résulteraient. Le résultat, c'est que des millions d'âmes se convertiraient. De plus, ce miracle a permis à l'apôtre Pierre d'annoncer la résurrection du Seigneur. Vous vous souvenez de ce qui se passa quand les soldats préposés à la garde du sépulcre sont venus pour trouver les sacrificateurs et racontèrent ce qui était arrivé. Ceux-ci leur donnèrent une forte somme d'argent en disant « Dites que ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. » Ce très grand mensonge fut répandu parmi le peuple d'Israël. L'apôtre Pierre annonça l'évangile à la foule et il rappela le crime qui avait été commis. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. La guérison de l'impotent avait été faite au nom de Jésus et la foi en Jésus-Christ avait accompli ce miracle. C'était la preuve que Jésus-Christ était réellement ressuscité des morts. Il y a des gens qui ne croient que dans un Christ historique. Nous avons besoin d'un Christ vivant et ressuscité. Quelqu'un qui peut intervenir pour nous quand nous en avons besoin. Il est maintenant à la droite de Dieu, opérant des guérisons et des miracles sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et ici-bas. À la suite de son discours, l'apôtre Pierre fut arrêté et il fut conduit devant le Sanhédrin. Habituellement, ce sont les malfaiteurs que l'on mène au tribunal. Les juges demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui ils avaient guéri cet homme. Ils reconnurent qu'il y avait là un miracle signalé. La preuve était là devant leurs yeux. L'homme guéri était là. L'apôtre Pierre se chargea de leur répondre. Il n'alla pas chercher un avocat. Le Saint-Esprit était avec lui et il avait un avocat au ciel. Jésus-Christ avait prévenu ses disciples qu'il serait jeté devant les tribunaux, mais il leur avait dit « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit Saint de votre Père qui parlera en vous. » Saint Matthieu, chapitre 10, versets 17 et 18. C'est pourquoi l'apôtre Pierre n'a pas préparé sa défense. Il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit et les membres du Sanhédrin ont été profondément embarrassés quand l'apôtre Paul, et plutôt l'apôtre Pierre, leur a dit « Chef du peuple et ancien d'Israël ». Puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le saint nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 9 et 10, et c'est l'apôtre Pierre qui parle. En quelque sorte, Pierre leur dit, « Vous pensiez qu'il était mort, et quand le corps a disparu, vous avez fait courir le bruit qu'il avait été volé. Ça, c'est faux. Jésus-Christ est vivant, il est vivant plus que jamais. En voici la preuve, cet homme a été guéri. Oui, le nom de Jésus-Christ est tout puissant. C'est une arme offensive et défensive. Les démons s'enfuient devant lui. Les possédés sont libérés. Les malades recouvrent la santé quand on invoque le nom de Jésus. Avec ce nom, on peut combattre. Ensuite, l'apôtre Pierre, devant le Sanhédrin, cita une prophétie de l'Ancien Testament. La pierre rejetée par vous, qui bâtissez, est devenue la principale de l'angle. Eux ne voulaient pas de Jésus, ils refusaient de le reconnaître comme leur Messie. Alors Dieu allait en faire la pierre principale, non pas dans un bâtiment juif, mais dans l'Église. Il est donc la pierre sur laquelle elle s'appuie l'Église. L'apôtre Pierre s'en souviendra plus tard quand il écrira dans son épître « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais vous êtes choisis et vous êtes précieuses devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » La question qui se pose aujourd'hui est celle-ci. Votre vie chrétienne est-elle bâti sur le roc, sur Jésus-Christ? Est-il le fondement de votre foi? Si vous avez autre chose comme fondement, permettez-moi de vous dire qu'au jour de l'éternité, tout s'écroulera devant Dieu. Jésus-Christ a parlé de deux maisons. L'une bâtie sur le roc, c'est-à-dire sur lui-même. L'autre bâti sur le sable, qui est la religion. Lorsque le vent a soufflé et que la pluie est tombée, la maison bâtie sur le roc a résisté, tandis que l'autre bâti sur le sable s'est écroulé. Il y a un verset remarquable, c'est Actes, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes et par lequel nous devions être sauvés. Il y a un mot qui me frappe, c'est-à-dire le mot salut. Qu'est-ce que le salut nous apporte? Voici la réponse. Le salut nous apporte le pardon des péchés, l'assurance de la vie éternelle, la paix du cœur, la guérison de nos maladies et l'espérance d'être enlevés quand Jésus reviendra. Vous voyez, le salut, c'est quelque chose de magnifique. Quand notre vie sera terminée, nous entrerons directement dans le royaume des cieux pour prendre notre place. Nous étions de misérables créatures tombées bien bas dans la fange. Et j'en sais quelque chose. Dieu a envoyé Jésus-Christ nous chercher et nous serons semblables à lui pour l'éternité. Oui, Dieu nous offre gratuitement aujourd'hui le salut. Chers amis, vous pouvez prier vous-même tout simplement sans aucune complication, sans formuler des phrases savantes. Si quelqu'un parmi vous qui a été à l'écoute de ce message veut accepter Jésus-Christ, eh bien, qu'il dise tout simplement « Seigneur, je viens maintenant, je viens, je me mets à tes pieds, je t'apporte tous mes péchés que je reconnais et je me repens de tout ce qui t'a déplu dans mon passé. Je veux commencer une nouvelle vie avec toi, non pas bientôt, peut-être dans quelques semaines, mais aujourd'hui même. Vous pouvez donc formuler ces mots tout simplement comme un enfant qui vient vers son papa. Et pour ceux qui sont malades, je comprends que suivant dans quel milieu vous vous trouvez et suivant dans quelle église que vous avez grandi, il est possible qu'on ne vous a pas parlé beaucoup de la possibilité de la guérison. Je ne dis pas que Dieu va guérir tous les mourants des hôpitaux, car moi-même, qui a bien au-delà de 80 ans, je sais que mes jours sont comptés. On n'est pas naïf. Dieu ne nous demande pas d'être stupides. Mais par contre, je sais par expérience que si vous avez quelqu'un dans votre famille ou quelqu'un que vous connaissez, un enfant ou une personne qui devrait pouvoir continuer de travailler mais qui pour le moment ne peut pas à cause d'une maladie, vous pouvez, avec des simples mots, comme un enfant, prier pour cette personne. Croyez-moi, c'est vrai. Et vous verrez des choses qui vont vous étonner. Priez tout simplement pour cette personne, pour que le Seigneur la guérisse par ses meurtrissures, par son sang qu'il a versé, et elle sera rétablie. Chers amis, nous continuons demain matin, Dieu voulant, pour la suite de cette nouvelle série. Que le Seigneur vous bénisse richement et souvenez-vous, il vous aime et notre devoir, c'est donc, comme vous l'avez entendu au début, d'aimer aussi notre prochain, même si il est pas ou elle est pas des plus sympathiques, de donner notre amour, l'amour agapé. À bientôt. Au revoir, mes très chers amis.